Si les organisateurs savaient seulement que j'avais 12 pages de notes. Quelques mots concernant l'œuvre en Corse. Vous savez que dans chaque œuvre, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, à Bastia, on est en perte de vitesse. Mais malgré cela, le Seigneur nous a donné une occasion extraordinaire de faire connaître l'Évangile. Nous avions organisé une exposition sur la Bible. Et opportunité des opportunités dans la bibliothèque municipale de Bastia. Nous avions souvent demandé pour cette bibliothèque et ça n'a jamais été accordé, mais finalement, eh bien, le Seigneur a ouvert la porte. Nous avons organisé durant 15 jours une exposition sur la Bible, 8 grandes tables avec tableaux, documents, etc. Non seulement cela, mais le journal a fait une invitation. Ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'en général, je fais ma propre publicité, mais c'est la bibliothèque qui a fait la publicité sur l'entête de la ville de Bastia. Ils ont placé des affiches dans les magasins eux-mêmes. Alors j'ai dit, puisqu'on avance avec la bénédiction du Seigneur, autant oser, je suis allé voir FR3 Corse, la télévision régionale, et j'ai demandé à voir le directeur de la station. On m'a dit qu'il était en conférence, vous savez ce que ça veut dire. Alors j'ai demandé à voir un journaliste. Et pendant que la dame de l'accueil est allée pour trouver un journaliste, le directeur lui-même est passé. Il a dit, est-ce que quelqu'un s'occupe de vous? J'ai dit, oui. Normalement, on doit aller chercher un journaliste. Et vous êtes là pourquoi? Ah, j'ai dit, vous savez, on fait une grande exposition à la bibliothèque municipale de Bastia. J'aimerais bien que vous m'envoyiez une équipe, une exposition. Oui, sur la Bible, le best-seller mondial. Et donc, j'ai pu parler avec lui. Il m'a dit, vous avez un communiqué? J'étais prêt. Voilà le communiqué. Il a dit, on verra ce qu'on peut faire. Et donc, on a continué à prier. J'ai reçu un coup de fil. Je vous envoie une équipe. Soyez là, tel jour, telle heure. Et donc, ils sont passés et ils ont fait un reportage. Et vous savez, quand vous avez affaire avec les journalistes, et je les apprécie énormément parce que beaucoup de ce que je fais dépend des journalistes. Mais vous ne savez jamais exactement ce qu'ils vont mettre dans le reportage, soit dans le journal, soit à la télévision. En général, c'est pas ce que vous estimez être le plus important dans ce que vous avez dit. Mais c'était le plus important. Un reportage de 40 secondes, c'est pas beaucoup, mais s'il fallait le payer, ça serait beaucoup, et juste après les informations. Non seulement mardi soir, mais mercredi à midi. Deux fois 40 secondes sur les informations régionales FR3. Nous avons une émission quotidienne avec Corse Info, une station privée qui dépend d'une association, et le directeur de notre station fait partie du conseil d'un magazine, qui s'appelle Le Journal de la Corse. Et je lui ai parlé de l'exposition, je lui ai dit que je l'annonçais dans mon émission. Il a dit, vous savez, on devrait peut-être faire un article dans le journal. Et je ne voulais pas donner l'impression que j'étais trop enthousiaste. Vous savez. J'ai dit, oui, je pense que ça serait une bonne chose, c'est quand même pas n'importe quoi. Et il m'a envoyé un photographe et un journaliste. Et il y a un article de 2 pages dans un magazine qui couvre toute la Corse et qui est vendu aussi dans certains endroits de la France, comme par exemple Marseille, qu'on appelle la capitale de la Corse, parce qu'il y a plus de Corse à Marseille que nous avons en Corse même. Et donc, malgré les moments difficiles dans le ministère, le Seigneur accorde néanmoins, quand nous persévérons, il accorde des portes ouvertes et nous vous demandons de prier. La Corse est un des endroits le plus négligé de la France, sinon la région la plus négligée de France, pour ce qui concerne l'évangélisation. Et chaque fois que vous voyez la météo et que vous êtes jaloux, eh bien, priez. Parce que si on a du beau temps, eh bien, le spirituel est manquant. Les vérités perdues. Les vérités perdues. Il est difficile de parler du sujet de l'enfer. Un orateur agnostique que vous connaissez peut-être, Robert Ingersoll, a commencé son discours un soir en disant « Je vais prouver d'une façon concluante que l'enfer est l'invention de théologiens pour faire peur aux gens crédules. » Un homme dans l'auditoire sous l'influence de l'alcool s'est levé pour ajouter « Sois convaincant, Robert, car beaucoup d'entre nous, nous comptons sur toi. » Il y a une chanson populaire française qui dit « On va tous aller au paradis ». Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est triste. On en parle avec tristesse. Quand vous allez dans un supermarché, vous vous rendez compte que 95% des gens que vous voyez vont certainement, un jour, être en enfer. Quand vous descendez le boulevard principal de votre ville, encore une fois, vous regardez les gens dans les yeux et vous vous rendez compte que une grande majorité d'entre eux seront un jour en enfer. On ne s'en réjouit pas du tout. C'est triste. Quelles sont les différentes idées sur l'enfer? Eh bien, il paraît que dans le Talmud, on dit qu'il y a 7 habitations en enfer. Chaque habitation a 7000 cavernes. Chaque caverne a 7000 falaises et chaque falaise a 7000 serpents destinés à mordre les méchants. Ce n'est pas l'idée de Dieu. Shakespeare dit « L'homme lui-même est l'enfer. Et si quelqu'un aime ce qui est mal, la présence de Dieu sera l'enfer pour lui. Savoir que Dieu est près de lui sera sa plus grande terreur. » Il y a 4 points de vue majeurs sur la question de l'enfer. Il y a le point de vue qui dit que l'enfer est littéral. Certains disent que l'enfer est une métaphore. D'autres voient l'enfer comme un purgatoire et d'autres encore comme une immortalité réservée, pas l'enfer, mais que l'enfer n'existe pas parce que l'immortalité est réservée seulement aux bons. Il y a beaucoup d'objections à l'idée de l'enfer. Certains diront que Dieu est humanitaire. L'enfer, l'idée de l'enfer serait contraire à sa nature. D'autres diront que le caractère de Dieu est contraire à la torture des hommes. Dieu est amour aujourd'hui. Pourquoi le serait-il autrement demain? Oui, mais les hommes sont torturés aujourd'hui aussi, pas seulement demain. Il y a des questions qu'on peut poser. L'enfer serait-il justice de Dieu si les chrétiens torturés sur terre souffrent plus que les moqueurs? Si Dieu est le bon Dieu, dans ce contexte particulier, qui pardonnera tout à tous, pourquoi promet-il aux chrétiens vivants dans la désobéissance d'être punis aujourd'hui? Autrement, ils sont appelés des enfants illégitimes. La souffrance existe aujourd'hui et Dieu permet la souffrance même pour ceux qu'il aime et ceux qui sont ses enfants. Non, le caractère de Dieu n'est pas contraire à la souffrance. Certains diraient « L'enfer serait une défaite de la volonté de Dieu. » Cela présenterait une contradiction entre sa souveraineté et l'enfer, entre sa justice et son amour. D'autres diront « Ça ne peut pas être si mauvais que ça, l'enfer. » C'est juste pas aussi bien que le paradis. D'autres diront que c'est une figure de rhétorique. C'est seulement un endroit qui est mal organisé, c'est le chaos, c'est le désordre. D'autres diront que l'enfer, c'est une idée des anciens, et tout ce qui est ancien, eh bien, vient d'individus qui sont peu éclairés. D'autres encore diront, ça n'existe pas, parce que quand on meurt, c'est la fin. J'aimerais retracer au travers de l'histoire la pensée de l'enfer et les tendances sur l'enfer pour savoir où nous sommes aujourd'hui. Nous ne voulons pas que l'histoire se reproduise. Il y avait des hommes en faveur de l'enfer au travers de l'histoire. Parmi eux, peut-être ceux que nous connaissons plus, Augustin, Luther, Calvin, Jonathan Edwards. Il y en avait qui étaient contre. La plupart d'eux pensaient que l'enfer était sur terre. Dans les premiers 16e siècle, les premiers 16 siècles, eh bien, on croyait plutôt à un enfer traditionnel, un enfer littéral. Il y avait quelques exceptions. Au 3e siècle surtout, on pensait que c'était une punition divine, mais pas éternelle. Il y avait même quelques anabaptistes, en 1550, qui disaient « Il y a d'enfer que la tombe ». Ils étaient en Italie. Du 16e au 18e siècle, il y a eu les premières grandes contestations. Mais c'était une minorité d'individus. La question était sur la durée de l'enfer. Au XVIIe siècle surtout, l'enfer a été attaqué, mais il y a eu une contre-attaque de la part de l'Église catholique, ce qui a diminué considérablement cette attaque. Du XIXe au XXe siècle, il y avait une confusion recherchée au sujet de l'enfer. Elle était voulue pour que ça ne devienne pas une menace. On croyait à l'existence d'un enfer, mais il y avait beaucoup de confusion sur ceux qui seraient condamnés en enfer. On voulait croire surtout que les perdus cesseraient d'exister, seraient anéantis, annihilés. Aujourd'hui, c'est la tendance, mais qui est appuyée. La croyance parmi le mouvement chrétien mondial, d'une façon, le terme utilisé d'une façon très générale, la croyance en vogue, c'est que les hommes cesseraient d'exister. Et la plupart des sectes aujourd'hui ne croient pas en enfer. Pourquoi y a-t-il eu des changements? Quelles sont les raisons pour les changements sur les croyances? Plutôt dans l'histoire récente, les grands mouvements, l'humanisme par exemple. L'homme est le centre de l'existence. On n'a pas arrêté de croire en Dieu, on n'a pas remplacé Dieu, on a diminué Dieu, on a déplacé Dieu. L'homme est devenu plus important et Dieu est devenu moins important. Ce mouvement a influencé énormément la vérité concernant l'enfer. Puis il y a eu l'universalisme, c'est-à-dire que tous les hommes sont sauvés. Dans l'histoire, les anciens universalistes se basaient sur la philosophie. Mais plus récemment, les nouveaux universalistes se basent sur des passages de l'Écriture, mais qui sont mal interprétés. Ils se disent, Dieu forcerait-il les hommes à être justes? Eh bien, l'universalisme a eu du succès. Dans les derniers 200 ans, l'universalisme est alimenté par l'humanisme. Et on dit que le jugement de Dieu serait un échec s'il avait lieu. L'enfer serait un échec de la part de Dieu. Il n'aura pas réussi sa mission, sa volonté. Un pécheur incorrigible, ça n'existe pas, diront-ils. Ils diront également que l'homme n'est pas libre devant Dieu. Dieu a créé un homme libre, mais il n'est pas libre s'il n'a que deux choix, l'enfer ou le ciel. Cette idée n'a pas eu énormément d'influence chez les évangéliques. D'ailleurs, la critique moderne, représentée dans cette citation par F.D. Maurice, dit « Il faut extraire tous les passages sur l'enfer pour les raisons suivantes. 1. Ils ont été faussement attribués à Christ, ou bien Jésus lui-même s'est trompé. » L'idée de l'enfer a disparu de plus en plus à cause de la sécularisation de l'éducation publique. C'est la philosophie qui prévaut. Et dans cette philosophie, le rationalisme. C'est-à-dire toute pensée doit être confrontée à l'expérience humaine. Et si on n'en a pas fait l'expérience, eh bien on ne peut pas dire que c'est exact, que c'est pas prouvé. Mais chez les évangéliques, il y a eu une évolution, pour ne pas dire une dégénérescence, sur le point de vue de l'enfer. Nous nous approchons de nous un petit peu ici. Les évangéliques qui ont essayé d'être un peu plus polis. James Davidson, a dit « L'Église évangélique, dans son désir d'être culturellement utile et par conséquent inoffensive, auprès des non-chrétiens, est devenue plus civile, plus polie, et aura moins tendance à parler aux non-chrétiens de choses comme l'enfer. » L'enfer est devenu moins important parmi les évangéliques aujourd'hui. La plupart des chrétiens, bien que croyants dans la vie après la mort, ne veulent pas y penser. Ça n'aura pas un grand impact sur leur emploi de temps. Dans la prédication aussi, on voit, et je m'en rends compte en faisant cette étude, que même chez moi, je ne prêche pas autant sur ce sujet qu'on le faisait auparavant. Il y a une croyance secrète chez les évangéliques, paraît-il. La plupart des chrétiens sont des universalistes secrets. Un sondage à la convention d'Urbana a révélé que 37% seulement des 5000 chrétiens présents croyaient qu'une personne était perdue sans Christ. Un sondage de 1995 chez certains évangéliques donnant lieu à une étude a révélé qu'il y a une attraction grandissante pour la doctrine de l'annihilation. On parle d'évangéliques. Quelle est la responsabilité des évangéliques et quelle est la responsabilité également des chrétiens fidèles aux doctrines fondamentales ? Les évangéliques ont aujourd'hui une approche distinctive où la théologie et l'évangélisation entrent en collision sur le sujet de l'enfer afin de franchir les frontières théologiques et les rendre élastiques. Un autre problème, c'est que certains évangéliques ont utilisé l'enfer comme une source de motivation à la sanctification, menaçant la perte du salut, ce qui a contribué également à cette attitude. Ce qui a également contribué à cette dégénérescence de la doctrine de l'enfer, c'est les évangéliques, c'est la doctrine concernant les degrés en enfer. Et sans respecter cela, on devient plus offensif que ce que n'est la parole de Dieu. Comment est-ce que l'idée de l'enfer a évolué, pour ne pas dire dégénéré aussi, dans le mouvement des fidèles aux doctrines fondamentales ? Eh bien, on nous dit que nous avons essayé de culpabiliser les gens, c'est-à-dire que nous sommes devenus nous-mêmes coupables de nous servir de la doctrine de l'enfer comme un gourdin pour assommer ceux qui résistent à nos efforts d'évangélisation. Et certains d'entre nous, peut-être, sommes coupables de cela, si on peut parler de culpabilité. Et on fait référence au message, par exemple, de Jonathan Edwards. Il paraît que notre responsabilité dans la dégénérescence de la doctrine de l'enfer est due au fait que nous sommes coupables de légalisme rigide et sans compassion, ce qui produirait une résistance à la doctrine de l'enfer. Les conséquences de cela, c'est que les nouveaux fidèles aux doctrines fondamentales, ne prêchent plus beaucoup sur l'enfer. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Je pose la question, est-ce que la croyance en enfer est indispensable pour avoir la véritable foi évangélique ? Est-ce que c'est indispensable ? Eh bien, cet après-midi, je vous propose d'analyser trois enseignements bibliques sur l'enfer, essentiel à un évangile authentique, sûr, irrécusable, fiable et crédible. Tout d'abord, la raison pour l'enfer. La raison pour l'enfer. Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2. La première raison pour l'enfer, c'est que l'enfer est l'heure de vérité. L'heure de vérité. Je lis Romains chapitre 2, verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Vous connaissez assez bien ce passage. Nous vivons dans un monde où la philosophie prétend que l'homme est foncièrement bon. Mais ce n'est pas la vérité. S'il y a un enfer, c'est parce que l'homme est méchant par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu. Apparemment, dans un grand temple bouddhiste en Asie, vous pouvez aller pour prier et là, il y a plus d'un millier de petits bouddhas dans ce temple. Et en général, les gens vont prier le bouddha qui leur ressemble le plus. Et c'est ce qu'on fait dans la société, n'est-ce pas? On préfère s'agenouiller aux pieds des philosophes qu'on aime entendre. On préfère entendre, et vous et moi, de bonnes choses à notre sujet, n'est-ce pas? Bien sûr, on a plus tendance à croire ces choses. Mais l'enfer est l'heure de vérité parce que Dieu dit « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Voyez, Hébreux 4 nous dit que Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Quel est son verdict? Que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Et c'est là où certains dit-on sont exacts, et celui-ci, toutes les vérités sont pas belles à dire. Et en voilà une. C'est une vérité, elle n'est pas belle, mais c'est vrai. Quel est le contexte en Romains chapitre 2? Le contexte, c'est que pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, chapitre 2 verset 5, comment Dieu jugerait-il le monde? Chapitre 3, verset 6. Il nous parle de l'homme coupable d'être injuste. Chapitre 3, verset 10. Coupable de ne pas chercher Dieu. Chapitre 3, verset 11. Coupable d'aucun bien. Chapitre 3, verset 12 à 16. Coupable d'aucune paix. Chapitre 3, verset 17. Coupable d'aucune crainte de Dieu. Romains chapitre 1, verset... chapitre 3, verset 18. Coupable au point d'être inexcusable, Romains 1, 20, chapitre 2, verset 1 à 4. Pourquoi? Parce qu'il retient justement la vérité captive. Pourquoi? Parce qu'il refuse de glorifier Dieu quand il l'a connu. Pourquoi encore? Parce qu'il a changé la vérité en mensonge. Pourquoi encore? Parce qu'il a servi la créature plutôt que le créateur. Pourquoi encore? Parce qu'il commet des choses indignes. Pourquoi encore? Parce qu'il a ignoré le jugement de Dieu. Pourquoi encore? Parce qu'il approuve ceux qui pêchent. Pourquoi encore? Parce qu'il fait les mêmes choses quand il juge son prochain de faire cela. Pourquoi encore? Parce qu'il méprise les richesses de la bonté de Dieu. Pourquoi encore? Parce qu'il méprise la patience et la longanimité de Dieu. Pourquoi encore? Parce qu'il refuse de reconnaître que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Pourquoi encore? Parce qu'il commet les péchés les plus graves que nous avons en Proverbe 6, 16. Il est hautain, il est menteur, il est meurtrier, il a des projets iniques, il est attiré vers le mal, c'est un faux témoin, il excite des querelles. Et le plus grand des péchés, celui mentionné par Jésus-Christ lui-même, en Jean chapitre 3, verset 36, celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Chapitre 2, verset 16, nous dit qu'il est coupable aussi dans ses actions secrètes. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et c'est là où la justice de Dieu dépasse la justice des hommes. Parce qu'avec les meilleurs juges du monde, ils ne savent pas ce que vous pensez, mais Dieu sait ce que nous pensons. Et on peut être très beau à l'extérieur, mais très moche à l'intérieur. Et Dieu en tient compte. On peut être un hypocrite parfait, n'est-ce pas ? Et être très beau à l'extérieur, quand en réalité, c'est bien le contraire. Les hommes diront, mais je ne suis pas coupable de tout cela. Dieu répond à cette question en disant, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Mais enfin, je ne suis pas coupable de tout cela. Il y a une culpabilité dans le fait que l'homme méprise l'offre de Christ. Vous savez, quand quelqu'un donne sa vie pour vous sauver la vie et vous n'en prêtez aucune attention, vous ne dites pas merci et en plus vous dites, c'est même pas vrai, c'est un mépris. L'homme est coupable de cela. Il refuse d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est une ingratitude extrême. Il est attaché à la société d'injustice, le succès de la magouille, etc. Il est fidèle à la tromperie, à la ruse. Il préfère une société qui court vers le succès, même s'il faut écraser son prochain. Il ne veut pas que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, même s'il répète cette prière. Ce n'est pas ce qu'il désire dans son cœur. Il méprise, il dédaigne les lois de Dieu sur la fidélité matrimoniale et sur le modèle que Dieu nous a donné et qui est méprisé aujourd'hui même par les législateurs de notre nation. Il soutient une éducation laïque qui prétend que la vraie connaissance est celle qui ignore Dieu totalement. C'est un outrage à notre Créateur. L'homme vit un outrage continuel et il ne se sent pas coupable. Dieu dit, celui qui pratique le péché est du diable. Mes amis, je vais parler d'une façon un peu laïque quand j'utilise le mot chance. Je sais que nous disons, nous avons une bénédiction de Dieu, mais je vais dire, nous avons la chance. Nous avons la chance de savoir quel est le verdict avant d'être jugé. Et quand on a la chance de connaître ce que sera le verdict avant d'être jugé, et quand on a une occasion de nous échapper de ce jugement, eh bien c'est une chance à saisir. Et c'est la chance qui appartient à tout homme aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons un message extraordinaire. Nous avons besoin de faire des campagnes d'information. On fait des campagnes d'information sur tous les sujets du monde. Nous avons le meilleur sujet, le sujet, celui de dire aux hommes, vous avez un cancer, vous êtes frappé du cancer du péché, vous êtes frappé du sida du péché. Le verdict, c'est que vous allez mourir, vous allez être jugé éternellement, mais il y a une solution, il y a un remède. Je peux vous donner ce remède. Et vous avez la chance de savoir que le remède existe et vous pouvez être traité d'une façon efficace et garantie. Oui, l'enfer, c'est un rendez-vous avec la vérité. C'est l'heure de vérité. C'est aussi un rendez-vous avec la justice. Le jugement de Dieu, il nous est dit en Romains chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 5, la manifestation du juste jugement de Dieu. Dans notre société, nous nous plaignons énormément de l'injustice. L'injustice. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand au stade de Bastia, il y a eu une chute de plusieurs milliers d'individus. C'était une finale contre l'OM et le SCB. Vite fait, ils avaient monté un système sur lequel on pouvait s'asseoir, qui était mal conçu, mais ils avaient offert, même le dernier jour dans les lycées, des billets gratuits. Les stades étaient pleins et beaucoup d'entre eux ne comptaient même pas aller au stade, mais puisqu'on leur a offert un billet, pourquoi pas ? Il y a eu une chute, beaucoup sont morts, 1 millier de blessés à peu près, il y a eu un jugement, et le jugement plus sévère, c'est 4 ans, avec 3 ans de sursis, et il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Où est la justice? Et on peut citer cas après cas après cas. Et les gens, vous les écoutez, ils vous disent, mais il n'y a pas de justice. Surtout s'ils sont touchés de près, il n'y a pas de justice. On donne l'impression dans notre société qu'on est attaché à la justice, mais en réalité, on n'est pas attaché à la justice du tout, parce que l'enfer, c'est le rendez-vous de la justice. Et si on était attaché à la justice, on serait attaché à l'enfer, au jugement de Dieu, en disant, les vrais coupables seront punis, et nous qui sommes innocents ou innocentés par Jésus-Christ, eh bien nous ne serons pas punis. C'est là la justice. La justice, c'est que tout le monde soit puni équitablement. On prétend aimer la justice, mais on n'aime pas la justice du tout. On veut la justice pour les autres, mais on ne veut pas la justice pour soi-même. L'enfer est le rendez-vous avec la justice. Dieu est le seul véritable juste. Et Dieu juge proportionnellement à nos offenses, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur sait réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Verset 13, recevant le salaire de leur iniquité. Et juste dans le contexte de ce passage, il évoque des exemples où Dieu effectivement a jugé pendant l'histoire humaine. Quand on dit que la nature de Dieu est contraire à l'idée de l'enfer, eh bien, pensons à Noé, le déluge universel. Le jugement est bien tombé sur les hommes. Et voilà un exemple du jugement de Dieu. Oui, le jugement a déjà eu lieu. Un jugement a déjà eu lieu. Les anges déchus, cela aussi est un exemple évoqué par Pierre. Le fait que même des anges aient été jugés à cause de leur rébellion. Et puis, il y a Sodome qui est évoqué dans ce passage aussi. Et nous voyons toute une ville brûlée, consumée. Pourquoi ? Un autre exemple. Que Dieu va juger. Il va juger. Il l'a déjà fait dans certains cas. Et le jugement final est devant nous. Il y avait un juge qui a rencontré son ami un jour et il a dit, mais j'ai entendu que vous alliez vous séparer. Et cet ami est devenu furieux, il a dit, mais il n'en est pas question, je suis très attaché à mon épouse, jamais je me séparerai d'elle. Et le juge a dit, mais je croyais que la médecine l'avait condamné à mort. Il dit, oui, effectivement, mais elle est chrétienne, elle va au ciel. Vous allez vous séparer d'elle. Ça l'a tellement travaillé qu'un jour, il est revenu pour demander comment il pouvait rester uni à elle pendant toute l'éternité. Je ne sais pas si la motivation était la meilleure, mais enfin, s'il a trouvé le Seigneur, gloire à Dieu. Oui.
Mes amis, nous avons une chance extraordinaire de dire aux hommes la raison de l'enfer. La raison de l'enfer, si on est attaché à la vérité, c'est l'heure de vérité. Si on est attaché à la justice, c'est le rendez-vous avec la justice. Et nous avons la chance de savoir que nous avons des traitements préventifs et qu'ils peuvent guérir avant d'arriver là. J'aimerais vous entretenir sur la description de l'enfer. On entend beaucoup de témoignages, de plus en plus de témoignages d'individus qui sont cliniquement morts et qui seraient allés dans la vie après la mort et qui ont vu un tunnel et au bout du tunnel, il y avait toujours une lumière, c'était toujours quelque chose de merveilleux et ils sont revenus pour en témoigner. Lazare n'a pas donné le même témoignage. Surtout l'homme riche auquel Lazare s'est adressé. C'est un lieu de malheur, de malédiction, de ruine, de calamité, de misère, de chagrin, d'affliction. La Bible en parle et parle du feu de la Géhenne. Un lieu de destruction, Matthieu 7. Les ténèbres du dehors, Matthieu chapitre 8. Un lieu de pleurs et de grincements de dents, Matthieu chapitre 8. Une fournaise ardente, Matthieu chapitre 13. Les temps de feu, Apocalypse chapitre 20. Un feu éternel pour des maudits, Matthieu chapitre 25. Le jugement du grand jour, Jude chapitre 6. Être traité rigoureusement, Luc chapitre 10. La colère de Dieu demeure sur lui, Jean chapitre 3. Il vaut mieux être battu d'un grand nombre de coups. Il va être battu d'un grand nombre de coups, Luc chapitre 12. Et alors, comment sera l'enfer? Mes amis, quand je lis ces passages des Saintes Écritures, je pense au tunnel du Mont Blanc. Les gens, vous les entendez dire souvent, utiliser cette expression, c'est l'enfer. Dans le tunnel de Mont-Blanc, on s'est approché de l'enfer. Ouais. Si je me rappelle bien, 3000 degrés. Vous vous rendez compte? Un pasteur passait devant une usine de verre en chemin pour aller au culte un jour, et la porte du four était ouverte. Il a vu la flamme rouge, blanc, bleu. Il a senti la chaleur intense. Il n'a vu personne, il pensait que personne n'était là. Et il s'est écrié, « Et alors, comment ça sera en enfer ?» Quelques jours plus tard, un homme a frappé à la porte de l'église et a dit, « Pasteur, c'est pas vous qui êtes passé à l'usine ?»« Oui. » Il a dit, « Vous avez dit une phrase, et chaque fois que j'ai ouvert le four, j'ai pensé à cette phrase. Et comment est-ce que ça sera en enfer ?» Il a dit, « Je voudrais échapper à cet enfer. » C'est un lieu terrible, mes amis. Nous avons besoin d'y penser tous les jours, et depuis que j'ai reçu l'invitation pour parler de ce sujet, j'ai essayé de penser, de me discipliner pour penser à cela chaque jour. C'est une chose terrible, c'est inimaginable, c'est insupportable de penser à cela et de se rendre compte que des gens qui sont gentils autrement, que nous rencontrons, surtout quand ce sont nos amis, nos voisins, de penser qu'ils seront dans un endroit plus terrible que le tunnel du Mont Blanc. Cet endroit doit être plus grave que la souffrance de tout chrétien sur terre. Bien entendu, ça ne serait pas l'enfer. Cet endroit doit être un endroit où on souffre davantage que la souffrance de l'incrédule qui est énormément souffrant sur terre. Et Dieu sait s'il y a des gens qui souffrent sur terre, mes amis. On aime les cacher dans notre société, mais il y en a qui souffrent terriblement, terriblement. On pense aux guerres mondiales. On pense à ce qu'ont fait les nazis, les camps de concentration, la torture, des choses inimaginables. L'enfer, c'est pire que ça. C'est pire. Autrement, on dirait, l'enfer, c'est sur terre. Mais ce n'est pas le cas. C'est encore futur. D'ailleurs, Dieu nous parle de quelque chose qui n'est pas encore l'enfer quand il décrit la grande tribulation où les gens disaient, « Rocher tombé sur nous !» Ils auraient voulu mourir, mais ils ne pouvaient pas mourir. Et l'enfer, c'est comme ça. Les gens ne pourront mourir. Ils ne pourront cesser d'exister. Mais ça sera encore pire que la grande tribulation. Mais là, il y a déjà une première manifestation de la colère de Dieu. Et dans la conclusion d'Apocalypse que Christ donne en Luc 23, il dit « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Nous avons ce témoin oculaire, l'homme matérialiste, qu'on appelle l'homme riche, qui a un dialogue avec Lazare. Tout à coup, il est devenu croyant. Il est devenu un évangéliste. Il a dit, « Ô Père Abraham, envoie Lazare qu'il évangélise mes saints frères. » C'est pour cela qu'on a besoin de méditer l'enfer, réfléchir sur l'enfer. Oui. Celle qui est celle de celui qui ne porte pas secours à une personne en danger. L'apôtre Paul dit « Je suis pur du sang de vous tous ». Est-ce que nous pouvons le dire? Nous avons besoin d'avertir de cette façon. En Ézéchiel 3,18, nous lisons « Si tu ne l'avertis pas, je te redemanderai son sang ». Ne nous rendons pas coupables du sang d'autrui. C'est aussi urgent. Nous avons besoin d'en parler de cette façon. C'est un danger imminent parce qu'en Jude 23, nous lisons « Sauvez-en d'autres en les arrachant au feu ». Et si nous lisons bien ce passage, ça veut dire qu'ils ont déjà un pied dans le feu. Autrement, il ne serait pas question de les arracher du feu. Ils ont déjà un pied dans le feu. C'est urgent, mes amis. Le danger est imminent. Et puis, il faut se rendre compte que la majorité va influencer le monde à aller dans le mauvais sens, comme nous dit Jésus-Christ en Matthieu 7, « Spacieux est le chemin qui mène à la perdition ». Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et nous devons avertir nos interlocuteurs que la majorité n'a pas raison. C'est Jésus qui le dit. Mais nous devons être aussi très clairs dans la proclamation de l'enfer, parce que malheureusement, il y aura des individus dont Jésus nous parle aussi en Matthieu 7, qui diront un jour, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons opéré des miracles en ton nom. » Et Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas. Pourquoi ces gens seront-ils en enfer? Parce que l'Évangile aura été proclamé d'une façon obscure, d'une façon fausse. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de nous. Parce que nous croyons que nous avons une interprétation exacte, sans prétention. » Sans prétention, mais c'est parce que c'est notre objectif d'étudier la parole de Dieu, d'être fidèle aux Écritures et d'annoncer exactement ce qui a été écrit en nous soumettant à l'Esprit de Dieu. Et nous pensons, pas que nous détenons la vérité, mais que nous proclamons la vérité. Et nous qui proclamons la vérité, nous sommes d'autant plus responsables d'avertir les gens. Parce qu'il y en a tellement qui vont faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ, mais qui ne seront pas au ciel, qui seront en enfer. Et ça, c'est triste. C'est encore davantage triste. Nous avons besoin de proclamer l'enfer aussi à cause du danger permanent face au sommeil spirituel. C'est ce que disait Pierre en 2 Pierre chapitre 1. Il dit, « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil. » Par des avertissements. On ne m'écoute pas, j'avertis quand même. Pierre disait, je vous avertis, je continue à vous avertir, je continue à vous avertir, je continue à vous avertir. Et si c'est nécessaire pour des chrétiens, combien plus forte raison avertir les perdus. Avertir, avertir, avertir. L'annonce de l'enfer a toujours accompagné les réveils. Et si nous avons le souci du réveil de l'Église de Jésus-Christ, et le souci des âmes perdues, il faudra revenir à la prédication régulière de cette doctrine de l'enfer. Vous savez, la crédibilité de l'Évangile dépend de notre annonce de l'enfer. Parce que la bonne nouvelle n'est pas une aussi bonne nouvelle si elle ne les sauve de pas de grand-chose. Quelqu'un dit, « Mais j'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour vous. Je vous ai sauvé la vie dans le tremblement de terre. » « Quel tremblement de terre ?»« Ben, il n'y en avait pas, mais je vous ai sauvé la vie. »« Ah bon, ouais, merci. » Ils sont sauvés de quoi? On annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont sauvés de quelque chose de terrible, la plus grande catastrophe mondiale, universelle. Eh bien, nous les avons sauvés de cela par Jésus-Christ. C'est là la bonne nouvelle. Et quand on n'annonce pas l'enfer, le jugement, eh bien la bonne nouvelle n'est pas aussi bonne. On vous a sauvé, on vous a introduit à Jésus-Christ. C'est pas une belle chose? Vous n'êtes pas reconnaissant? Oui, Si nous voulons que notre évangile soit véritablement la plus grande et la plus belle nouvelle qu'elle mérite d'être, eh bien, il faudra parler de l'enfer. Il faudra parler de l'enfer. Un ecclésiastique très connu dans le monde anglophone est devenu très malade. Il était malade au point où il ne voulait même pas qu'on vienne lui rendre visite, même ses amis chrétiens. Il a dit, écoutez, je préfère être tranquille et de terminer mes jours comme cela. Mais un agnostique a demandé à le voir. J'ai parlé de lui tout à l'heure, Robert Ingersoll. Il a demandé à le voir et cet ecclésiastique a accepté qu'il vienne lui rendre visite. Monsieur Ingersoll a dit, après avoir parlé, il a dit, mais comment ça se fait que vous avez refusé la visite de chrétiens même et que vous avez accepté la mienne? Et ce chrétien a dit, je sais que je reverrai mes amis chrétiens, mais pour vous, ça risque d'être notre dernière rencontre. Et mes amis, nous rencontrons des gens tous les jours. Tous les jours, ça risque d'être notre dernière rencontre. Oui. Le message de l'Évangile est le message le plus grand. Le plus grand parce que rien ne fait plus pour l'homme que l'Évangile en le délivrant du plus grand, de la plus grande catastrophe. C'est le plus urgent, le message le plus urgent parce que à chaque battement de cœur, il y a quelqu'un, quelque part, dans ce monde, qui est en route à l'enfer. Chaque fois que votre cœur bat, il y en a déjà 3, 4, 5 qui sont partis. Mes amis, vous vous rendez compte? C'est le plus urgent. C'est le plus salutaire parce que c'est la seule solution réelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le seul bénéfique, le plus bénéfique. Car aucune vie ne peut être aussi enrichie que par celle de Jésus-Christ. Quand il dit sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est le seul message le plus socialement équitable. Pourquoi? Parce que car devant Dieu, il n'y aura point de favoritisme. Et si on veut la défense des droits de l'homme, eh bien, il faut devenir chrétien. C'est le plus promettant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de garantie. Jésus dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Pourquoi encore? Parce qu'il dit, celui qui croit en moi ne sera point confus. Et pour nous, qui œuvrons pour lui, il nous rappelle, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alors mes amis, comment rester ferme dans cette doctrine? En introduction, je vous ai parlé de la façon dont l'idée ou la doctrine de l'enfer a évolué ou dégénéré au travers des siècles et même arrivé jusqu'à nous, au point où nous aussi, dans notre présentation de l'Évangile, surtout dans nos premiers contacts, nous ne parlons pas d'enfer, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ça qui rend l'Évangile aussi beau. C'est le fait qu'il délivre d'une perdition aussi mauvaise. Eh bien, 2 Pierre chapitre 3, verset 17 nous dit, « Vous donc, mes bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Si nous ne voulons pas déchoir de notre fermeté sur la doctrine de l'enfer, que faut-il faire? Eh bien, premièrement, il y a une mise en garde pour les avertis, pas pour les nourrissons spirituels, pas pour les bébés qui sont au lait, pas pour les enfants spirituels, mais ceux qui doivent être des maîtres, les avertis. Il dit, vous donc mes bien-aimés qui êtes avertis, vous savez, même les avertis peuvent déchoir de leur fermeté. Et ça c'est nous. Méfions-nous. Ne parlons pas des autres, ne parlons pas même des évangéliques là-bas, parlons de ceux qui sont fidèles aux doctrines fondamentales et méfions-nous nous-mêmes. Une mise en garde pour les avertis. Une mise en garde due au phénomène de l'influence. Il dit, de peur d'être entraîné. C'est les affermis qui peuvent aussi être entraînés. Oui, nous pouvons aussi être entraînés. D'autres avant nous ont été entraînés. Méfions-nous de ce phénomène d'influence. Et puis, je vois aussi dans ce passage une mise en garde contre l'inattention, l'insouciance, la distraction. Il dit, tenez-vous sur vos gardes. Attention à la distraction. Tenez-vous sur vos gardes. Mettez-vous. Attention. Tenez-vous sur vos gardes. Et alors, nous aurons cette fermeté, cette assurance, cette résolution, ce courage, cette rectitude. Dans un article du petit journal que vous connaissez tous, L'amour de la vérité, numéro 67, janvier 2004, James Stewart est cité. Il dit « Le réveil est impératif, car les écluses de l'enfer sont ouvertes sur notre génération dégénérée. » Je pense à cet aumônier qui avait un nouveau poste, qui est arrivé sur un navire de la marine, qui s'est introduit à tous ses marins, et quelques-uns des marins lui ont dit « Mais, monsieur le pasteur, est-ce que vous croyez à l'enfer ?» Il a dit « Non, vous savez, de nos jours, on ne croit plus à ces choses. » Et à sa surprise, les marins ont dit « Eh bien, vous avez besoin de démissionner. » Vous avez besoin de démissionner, car s'il n'y a pas d'enfer, on n'a pas besoin de vous. Et s'il y avait un enfer, vous ne serez d'aucun secours. Mes amis, nous avons besoin de prêcher l'enfer. Le monde n'a pas besoin de nous si nous ne prêchons pas l'enfer. Oui, et bien que Dieu nous accorde de ne pas déchoir de notre fermeté. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ceux qui ont pris le temps et qui ont insisté afin que nous ayons les yeux ouverts à cette vérité profonde, celle qui a provoqué en nous la repentance. Et c'est pour cela, Seigneur, que l'Évangile pour nous est si beau. Oh, souvent, nous ne comprenons pas la beauté de ce que tu as fait dans le rachat, parce que nous nous réjouissons comme les disciples du nombre de démons que nous avons chassés, du nombre de membres qui sont dans nos églises, du nombre de projets que nous avons organisés. Mais Jésus dit, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Seigneur, il n'y a rien de plus précieux que nous possédons que le fait que nos noms sont écrits dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on serait en enfer. Et l'enfer est tellement terrible qu'être sauvé de l'enfer, c'est ce que peut nous arriver de plus béni de toute notre expérience chrétienne. Seigneur, donne-nous à nouveau un amour pour ton rachat, pour ton pardon, parce que nous nous rendons compte du risque que nous avons encouru. Aide-nous, Seigneur, à être utiles dans ce monde, parce que sans prêcher l'enfer, ils n'ont pas besoin de nous. Aide-nous, Seigneur, à les arracher aux flammes. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.